personnes qui sont là pour la première fois, tous nos visiteurs, on vous invite d'aller à l'espace Bienvenue en sortant. Après la réunion, à votre gauche, nous avons l'espace Bienvenue, une équipe de personnes qui sont là pour prier avec vous et répondre à vos questions. Puis on a un cadeau qu'on aimerait vous donner aussi de la part de l'Église. Alors n'oublie pas de visiter l'espace Bienvenue. Il me fait plaisir ce matin d'ajouter ma voix à cette série appelée « La source » qui décrit bien le cœur de l'Évangile de Jean, « La source ». L'Évangile de Jean, c'est un livre qui a été écrit plusieurs décennies après l'arrivée de Jésus sur la terre, après plusieurs décennies après sa mort, sa résurrection, et qui avait comme objectif de rappeler l'Église un retour à la source. Jean voulait rappeler l'Église de retour à la simplicité de l'Évangile. Comment je sais ça? Parce que Jean lui-même le dit. Jean 20, 31, il donne la raison pourquoi il écrit l'Évangile de Jean. Le passage est sur l'écran. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Un rappel à la simplicité de l'Évangile. Un cri non pas dissimilaire au cri des réformateurs à travers de l'Église depuis Jésus, depuis Jean, depuis 2000 ans maintenant. Le cri des hommes et des femmes qui rappelaient l'Église à retourner sur son bon chemin, à revenir à sa source, à retrouver ses racines. Et une des plus grandes et plus importantes réformes de l'histoire de l'Église a pris place presque exactement 500 ans de la date d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, mais cette année 2017 est le 500e anniversaire de ce qu'on appelle la réforme. La plus grande réforme de toutes les réformes, lancée principalement par un moine allemand appelé Martin Luther en 1517. Combien ont déjà entendu parler de Martin Luther? Hein, levez votre main. Vous avez déjà entendu parler de ce nom historique, Martin Luther? C'est lui qui a lancé une réforme qui a donné naissance au mouvement protestant. Un mouvement qui a engendré plusieurs dénominations et églises qui existent encore aujourd'hui, dont nous faisons partie. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Église Nouvelle Vie est connue comme une église protestante évangélique et donc, d'une façon de parler, un produit de la réforme qui a pris place il y a 500 ans. Mais d'abord, il faut comprendre que ce n'était jamais l'intention de Luther de se séparer de l'église institutionnelle de son temps, ni de fonder ou lancer un nouveau mouvement. Il voulait tout simplement faire comme Jean, rappeler les racines de l'église et l'inviter à revenir à sa source, Jésus-Christ, et à retrouver son chemin. Car après 1500 ans d'existence depuis sa naissance en Actes chapitre 2, une partie de l'Église avait dévié du chemin, dévié de son fondement, de ses valeurs, de sa raison d'être, de sa mission, de la simplicité de l'Évangile pour devenir une institution politique, religieuse, hiérarchique, matérialiste et en partie corrompue même. Et malheureusement, l'Église de l'époque n'a pas bien répondu aux cris de ceux qui voulaient la réformer et a choisi de les chasser de leur communauté au lieu de se conformer à leurs recommandations, de les chasser et parfois même les exécuter. Et cette réaction a produit un contexte propice pour la création d'une autre Église, si vous voulez. Un mouvement de réformateurs qui, avec le temps, a devenu ce qu'on appelle le mouvement protestant. Un mouvement de plusieurs églises et dénominations qui a aussi évolué depuis 500 ans et qui a aussi parfois dévié du chemin, qui a connu aussi des réformes, des réformateurs jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Quand on parle de réformes, réformateurs depuis Jésus, depuis Jean, depuis l'histoire de l'Église, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle, car une bonne réforme n'est jamais mal sur le plan de l'Église et sur le plan personnel. Car une réforme est là pour nous rappeler aux choses fondamentales, même essentielles de la vie et de la foi chrétienne. Car c'est la tendance naturelle humaine de se dévier du chemin avec le temps, ou d'oublier son fondement, ou de s'éloigner de sa mission originale. Alors ce matin, en l'honneur de Jean, ainsi qu'en l'honneur de l'anniversaire de la réforme et les réformateurs, je vais vous donner trois cris de cœur des réformateurs. Des cris pour lesquels ils ont payé un grand prix, même parfois avec leur vie. Et je crois qu'ils sont des cris qui doivent résonner dans nos oreilles et dans nos cœurs encore aujourd'hui et qui ne doivent jamais être oubliés, car ils sont des cris pour un retour à la source. Alors, trois cris de cœur de Jean et des réformateurs. D'abord, cri numéro un, sola scriptura. Ce n'est pas le band musical Impact qui a inventé cette phrase. Ce fut le cri de Luther et les réformateurs il y a 500 ans. Sola scriptura, qui veut dire seules les Écritures, seule la Bible, de retour à une Bible en chaque maison et dans chaque main, car elle est la parole de Dieu, la seule et finale autorité en ce qui concerne la foi, les doctrines, les pratiques et le comportement du chrétien et de l'Église. Vous voulez découvrir Dieu? La Bible. Vous voulez connaître Dieu? La Bible. Vous voulez mieux connaître Dieu? La Bible. Vous voulez entendre la voix de Dieu? La Bible. Combien ici ce matin aimerait entendre la voix de Dieu à chaque jour? Levez votre main. Oh, parfait. Lisez votre Bible. Puis la personne qui dit, oui, mais Pasteur Mark, moi je veux entendre la voix de Dieu d'une façon audible. OK, pas de problème. Lisez votre Bible à haute voix. Vous allez entendre la parole de Dieu et la voix de Dieu audiblement, parce que Dieu parle, il parle encore aujourd'hui, mais il parle par sa parole. Lisez la Bible. Bonne main d'applaudissement pour la parole de Dieu. Dieu parle aujourd'hui, il parle dans la Bible. Sur la scriptura, de retour à la parole de Dieu comme la source d'inspiration et de révélation. Et comme outil essentiel pour découvrir ou redécouvrir Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme Martin Luther a dit dans son discours devant la Diète de Worms le 18 avril 1521, où il était demandé de retracter ses déclarations. Il a dit ceci, « Je ne peux retracter, car je suis lié par les textes scripturaires et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Que la même chose soit dite de moi et de nous. Nous sommes captifs par la parole de Dieu. » On ne peut pas dévier. Vous êtes d'accord avec moi? Sur la scriptura. La parole avant et au-dessus de la tradition. La parole avant et au-dessus de l'institution. Des commandements et des ordonnances des hommes ou d'un homme. La parole avant et au-dessus des lois religieuses et cérémoniales, avant et au-dessus de toute autre manière humaine pour représenter Dieu ou s'approcher de Dieu ou pour approfondir la spiritualité, avant et au-dessus les tendances et modes populaires et culturels. La parole avant et au-dessus de la sentimentalité, possiblement la partie la plus importante aujourd'hui, où nous sommes plus portés à suivre notre cœur, nos sentiments, nos émotions que la Bible. Même si notre cœur nous conduit dans un chemin ou une décision ou une position qui n'est pas encore avec la Bible, la parole de Dieu au-delà et au-dessus de nos sentiments. La parole avant et au-dessus de tous les rites religieux, les formes ecclésiastes fabriquées par les hommes, imposées par les hommes, qui malheureusement remplacent la parole souvent, au moins la cache ou l'obscure, mais qui ne produit jamais une connaissance de Dieu ni une connexion avec Dieu que nous avons tous désespérément besoin. Dr. Paul Hubert Poirier, un théologien historien catholique, en parlant d'une certaine époque dans l'Église, a dit ceci, la citation est sur l'écran. « La faible connaissance des Écritures et un clergé peu instruit lui-même favorise une religion familière, attaché surtout au culte des saints et des reliques, ce qui souligne entre autres éléments la multiplication des pèlerinages, une religion populaire, peu profonde, limitée à quelques pratiques assez formelles, à la limite de la magie, puis à 100% raison. Le plus qu'on s'éloigne de la Bible, le plus qu'on s'attache à des moyens humains, même mensongers, pour plaire à Dieu, ou pour s'approcher de Dieu, ou pour gagner la faveur de Dieu, ou pour garantir notre salut. » qui, selon l'apôtre Jean et les réformateurs, est un effort futile, car il y a seulement un chemin, un moyen, une façon d'être sauvé et de demeurer sauvé, et ce n'est pas par des actes religieux, ni par des bonnes œuvres, mais par une simple foi en Jésus-Christ. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tellement simple. Une bonne main d'applaudissement pour la simplicité de la parole de Dieu, la foi en Christ. Qui m'amène au deuxième cri des réformateurs. D'abord, sola scriptura. Puis le deuxième cri de Jean et des réformateurs qui doit résonner dans nos cœurs et nos oreilles aujourd'hui est liberté et simplicité. Dans quel sens? Dans le sens biblique d'un simple et libre accès à Dieu. Un accès à Dieu sans obstacle. Un accès à Dieu sans cérémonie, sans chandelle, sans médiateur. Que ce soit des prêtres, des saints ou Marie, la mère de Jésus même. Libre accès à Dieu sans la nécessité des rites et des récitations. Libre accès au pardon de Dieu sans la répétition des prières ou de paroles vaines, sans les indulgences, sans réciter le chapelet, sans la confession à qui que ce soit d'autre que Jésus-Christ lui-même. Accès immédiat à Dieu. Sans monter des marches ou grimper une échelle, comme si nous sommes ici-bas et Dieu est en haut, inaccessible, loin et difficile à atteindre. Car ce que la Bible nous enseigne est un simple et libre entrée dans la présence de Dieu par le sang et le nom de Jésus, comme un enfant qui s'approche d'un parent. Libre accès, tout de suite, là. Liberté, simplicité. Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est possible pour nous, par la nouvelle naissance, produite par la foi en Jésus-Christ, de devenir un fils ou une fille de Dieu, avec tous les droits et privilèges d'un enfant, d'un membre de la famille, comme le privilège d'un libre accès à Dieu, le Père. Dieu est le Père, mon Père, notre Père. Qu'en passant à la réponse que je donne à tous ceux qui pensent qu'il faut consulter Dieu pour chaque petite décision qu'ils prennent dans la journée. Comme Dieu, quelle céréale dois-je manger ce matin? Quelle chemise dois-je porter? Moi, je réponds toujours à ces personnes-là. Dieu est ton père et non pas ta mère. Il t'a donné un pouvoir décisionnel. Ma mère s'inquiétait toujours pour ce que je mangeais le matin, pour ce que je portais avant de sortir. Il fallait que je sois net, propre, avec toutes les bonnes couleurs, qui matchent avec un vêtement assez chaud et confortable, tandis que mon père était juste content que je ne sortais pas tout nu. Mais ça demeure quand même que j'ai le grand privilège d'avoir Dieu comme mon Père. Dieu, il est mon Père qui m'aime et non pas un juge qui désire m'écraser pour mes fautes et mes manquements. Il est mon Père qui prend soin de moi, qui pourvoit pour moi, qui porte attention à moi avec amour. Et tout cela grâce à ce qu'on appelle la bénédiction et la merveille de l'adoption. Comme décrit en Romains 8, vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'apôtre Paul a dit, fin de la peur, fin de la crainte. C'est la fin de la terreur, parce que vous avez reçu quoi? Un esprit d'adoption par laquelle nous crions, Abba, Père. Une expression d'affection et d'intimité. Daddy, papa, Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Adoption, la merveille de l'adoption. Je suis adopté dans la famille de Dieu. J'ai Dieu comme mon Père. Combien sont d'accord? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et comprenez, l'adoption ne veut pas dire second classe, mais on est juste adopté. On n'est pas des vrais enfants, on est adopté. Ça ne veut pas dire moins aimé, second classe, moins important. Sans les mêmes bénéfices qu'un enfant biologique. Au contraire, comparer un enfant adopté avec un enfant naturel biologique. Une adoption n'est jamais un accident. Une adoption n'arrive jamais d'une façon involontaire et inattendue. Ce n'est jamais pas désiré et rarement gratuit. Tandis que beaucoup d'enfants naturels arrivent par accident. Ils ne sont pas nécessairement attendus ni voulus et malheureusement ne sont pas toujours aimés et ne sont pas toujours bien traités. Tous des réalités beaucoup plus rares pour un enfant adopté, car un enfant adopté coûte en argent, coûte en temps, en effort pour l'obtenir. Et en plus, dans la plupart des cas, a été choisi expressivement par les parents, comme nous avons été choisis par Dieu et aimés par Dieu et tellement voulus par Dieu qu'il a payé le prix du sang de son fils pour nous avoir, pour nous adopter. Là, commande une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Il m'a choisi, il m'a aimé, il a payé le prix pour que moi, je fasse partie de sa famille. Quelle bonne nouvelle! Dieu a choisi d'aimer moi, même moi. Il m'avait adopté dans sa famille, il m'a appelé son enfant, son fils. Wow! Et pour cette même raison, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit est vrai. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pourquoi avec assurance? Traduit en anglais « boldly ».« Approach the throne of grace boldly », qui veut dire littéralement « avec audace ». Approchons Dieu avec audace, sans hésitation, comme un enfant avec son parent. Pourquoi? Parce que Jésus a préparé le chemin. Hébreux 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a été inaugurée pour nous au travail du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Libre entrée! Voici la raison pour laquelle une église évangélique protestante comme la nôtre est souvent beaucoup plus simple et minimaliste dans son décor. L'avez-vous remarqué? Beaucoup plus minimaliste dans le décor, dans ses cérémonies, dans ses réunions qu'une église traditionnelle institutionnelle. Vous avez remarqué, la musique débute et on entre dans la louange. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous avons libre accès dans la présence de Dieu, parce que Jésus a tout préparé. Alors nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, la musique débute, on entre dans la louange. Pourquoi? Parce que Dieu est là, présent, accessible. Nous entrons en sa présence sans rite, sans récitation, sans sacrifice, sans objet sacré ou parole sacrée ou l'eau sacrée ou vêtements sacrés, sans l'encens et sans médiateur, parce que nous avons un contact, une connexion directe, immédiate avec Dieu, par la louange, la prière et la parole, dû au fait que Jésus a préparé un chemin pour nous par son sacrifice, une fois pour tous et pour tout temps. On entre dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Combien sont d'accord que ça, c'est une bonne nouvelle, ça? Pas d'obstacle! Ce fut le cri de Jean des réformateurs, sola scriptura, simplicité et liberté, grâce à l'œuvre de Jésus. Et le dernier, mais non pas le moindre des cris, la justification par la foi. Justification par la foi a été annoncée par Jean. Encore, on revient à Jean 20, 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. C'était annoncé par Jean, mais justification par la foi a été expliquée par Paul. Romains chapitre 3, 21. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors d'abord, qu'est-ce que Paul nous dit? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous! Je pense que ça inclut vous et moi. Je sais que nous avons tous l'air beau, propre et spirituel ce matin, mais la réalité est que nous sommes tous des pécheurs, sans exception. Moi, je suis pécheur et vous êtes pécheur. Et nous avons besoin d'un sauveur pour nous sauver, car nous sommes tous des pécheurs. Vous heureux ce matin? Vous devez être. Ouais, je ne suis pas heureux d'être traité de pécheur. Ouais, vous devez être heureux. Car cette vérité nous donne la réponse aux deux questions théologiques parmi les plus complexes et mystérieuses, deux questions que les gens demandent depuis des siècles. Question numéro un, pourquoi que des mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Combien ont déjà entendu cette question-là? Question numéro deux, comment que Dieu peut envoyer des bonnes personnes morales en enfer juste parce qu'ils ne sont pas des croyants? Combien ont déjà entendu ces deux questions? Hein? Moi aussi. Mais selon Paul, la question même est un non-sens. parce qu'il n'existe pas de bonne personne. Alors, nous ne pouvons pas dire, mais comment que Dieu peut envoyer une bonne personne à? Comment que des mauvaises choses peuvent arriver à des bonnes personnes? Well, les questions sont un non-sens selon Paul, parce qu'il n'existe pas de bonne personne. Romains chapitre 3 encore. Tous sont sous l'empire du péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Oui, mais je connais un tel, pas même un seul. Nul est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mystère réglé. On ne peut plus demander ces questions-là. Mais pourquoi que des bonnes, mauvaises choses, il n'y a pas de bonnes personnes? Oui, mais comment que Dieu a envoyé des bonnes personnes? Non, ça n'existe pas, des bonnes personnes. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et Paul se répète comme ça pour être certain qu'on capte exactement ce qu'il dit. C'est une autre façon de dire que parmi les êtres humains, il y a seulement des rats et non pas des écureuils, qui sont aussi des rats, mais plus jolis. Selon Paul, peu importe l'apparence de l'arbre à l'extérieur avec son écorce et ses feuilles, l'humanité est pourrie dans son intérieur et sur le bord de s'écraser à terre à n'importe quel instant. Mais moi, je sais que ça, c'est une offense à quelques personnes ce matin. Il va se demander, mais qui es-tu de me traiter de pécheur? Tu ne me connais même pas. Moi, c'est vrai. Mais la Bible enseigne que nous sommes tous nés dans le péché, dû au péché original, le péché que nous avons hérité d'Adam et Ève. Puis il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais pourquoi je suis considéré un pécheur? Parce qu'Adam et Ève ont péché. Est-ce que c'est juste que moi, je suis traité de pécheur pour ce qu'Adam et Ève ont fait il y a des milliers d'années? Je n'étais même pas là. La tâche originale est injuste. Vous comprenez quelque chose. Ni moi, ni l'apôtre Paul vous traitent de pécheurs tout simplement pour les péchés qu'Adam et Ève ont commis, on vous traite de pécheurs pour les péchés que vous avez commis. C'est pour ça que quand les gens se plaignent à moi que Dieu est injuste de nous traiter de coupables pour les péchés d'Adam et Ève, je les demande, avez-vous commis au moins un péché dans votre vie? Oui. Est-ce que vous avez commis un péché la semaine passée? Oui. Bon, laisse faire Adam et Ève, vous êtes coupables tout seuls. Et moi aussi. Encore une fois, Romains 3, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ces versets font partie des multiples déclarations succinctes, concises et brutalement honnêtes au sujet de la condition humaine trouvées dans les écrits de Paul, des déclarations non pas politiquement correctes, parce que, surtout aujourd'hui, il ne faut pas parler du péché. On préfère mettre l'accent sur la bonté des gens. Il ne faut pas parler du péché. Puis au lieu de parler du péché, Pasteur Mark, il faut servir de d'autres termes plus contemporains. Parle de la dysfonction, la dépendance, les problèmes affectifs, les problèmes de comportement, des erreurs de jugement, mais non pas le péché. Et comme je dis souvent, mets du rouge à lèvres sur un cochon, il demeure quand même un cochon. Puis le péché, c'est le péché, c'est le péché, peu importe les termes qu'on fait pour l'emballer un peu, parce qu'on n'aime pas parler du péché. Le péché, c'est le péché, et son salaire est la mort, une autre réalité que ne changerait jamais. Romains 6, car le salaire du péché, c'est la mort. Une autre déclaration directe, mais aussi très, très vraie. Je sais que ça peut nous déranger parfois, une vérité comme ça, puis la façon que l'apôtre Paul écrit d'une façon tellement directe comme ça, ça peut nous déranger. Mais comme je dis souvent aux hommes, la vérité est comme un examen de la prostate, envahissant et désagréable, mais elle peut nous sauver la vie. Il n'y a rien qui a plus de potentiel pour nous sauver la vie qu'une bonne compréhension de notre état de pécheur, ainsi que les conséquences du péché, car elle nous pousse vers notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est toujours une bonne chose. Car la bonne nouvelle est, nous sommes pécheurs, oui, nés dans le péché, et nous péchons, mais la bonne nouvelle est qu'il y a un remède, une solution, un pardon disponible pour nous, gratuitement, ce qu'on appelle la justification par la simple foi en Jésus-Christ. Il est la solution. Come on, une bonne main d'applaudissement pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un remède, une solution à cela. Tous ont péché et privé la gloire de Dieu, Paul dit, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le juste vivra par sa foi. Il y en a qui vont dire, oui, mais le juste vivra par sa foi, mais le problème est qu'il n'y a pas de juste. Exactement, le voilà la raison pour la foi. La foi qu'on reçoit et la foi qui reçoit la justification gratuitement. Gratuitement. Vous ne pouvez pas acheter le salut. Dieu ne négocie jamais un prix avec vous, hein, il vous l'offre gratuitement. Vous pouvez l'accepter ou rejeter, mais n'essaie jamais de l'acheter ou de la mériter ou de la gagner, car le prix est trop cher et en plus, il a déjà été payé par le sang de Jésus. Et pour cette même raison, la foi chrétienne, comprenez quelque chose, la foi chrétienne n'est pas une philosophie, ni une morale, ni une religion, ni une accumulation de points avec Dieu par des bonnes œuvres. La foi chrétienne est une vérité, une déclaration, si vous voulez, que si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes libre. Non pas libre de l'influence du péché, ou libre de la pression du péché, ou libre de la présence du péché, mais libre des conséquences du péché, les conséquences spirituelles et éternelles du péché. Il y a trois fois que Jésus nous sauve de nos péchés. Puis ça, c'est un fait important à savoir, ça. Car les chrétiens pensent souvent d'être sauvés. Moi, je suis sauvé. Es-tu sauvé? Dieu m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Mais vous serez surpris du nombre de chrétiens qui ne savent même pas de quoi ils sont sauvés. Jésus m'a sauvé. Sauvé de quoi? Il m'a sauvé. Il y a trois façons que Jésus nous sauve. D'abord, Jésus nous sauve des conséquences du péché, qui veut dire le jugement de Dieu, l'enfer. Oui, l'enfer. L'enfer est encore une réalité, même en 2017, qu'on l'aime ou on l'aime pas. La mort éternelle, il nous sauve des conséquences du péché par la justification. Ensuite, Jésus nous sauve de l'influence du péché par la sanctification. Et en dernier, Jésus nous sauve même de la présence du péché pour toujours, une fois rendu au ciel, pour vivre avec lui pour l'éternité, par ce qu'on appelle la glorification. Un corps glorifié en éternité sans même la présence du péché. Combien ont hâte à ce jour? Un corps glorifié, un corps qui est toujours en forme, un corps qui ne vieillit jamais. Et tous les femmes disent, yes, enfin! Il ne serait plus nécessaire de dépenser l'argent sur les crèmes, les lotions et les liquides qui vous rajeunissent ou préservent votre jeunesse à 150$ pour un pot grand comme ça. Et tous les hommes disent, yes! Mais entre-temps, les mesdames, continuez avec les crèmes et les lotions, ça nous fait du bien. Mais un jour, ça serait plus nécessaire. La justification, la sanctification, la glorification, tous rendus possibles par Jésus. Mais c'est ce qui attire notre attention. La première, la justification par la foi, car ce fut le cri de Jean, ce fut le cri des réformateurs, de revenir à la justification par la foi, offert gratuitement par Dieu, grâce à son Fils Jésus, en réponse à notre foi. Romains 3 et 5 encore, ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Nous sommes justifiés par son sang. Romains chapitre 5, justifiés. Pasteur Marc, c'est formidable, je suis justifié par la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'être justifié? C'est quoi, ça? D'être rendu juste. Et pourquoi qu'elle est si significative? Pourquoi Paul en parle tellement souvent? Paul nous donne la réponse en Romains 2, 13. La première fois qu'il utilise le mot « justifié », puis il y a beaucoup de personnes qui manquent ça. Ils vont parler de la justification par la foi, mais ils manquent vraiment le fondement de la thèse de Paul en Romains, quand il pose vraiment le fondement en décrivant, mais c'est quoi la justice? Comment on peut être juste devant Dieu? Qu'est-ce que ça prend pour être vraiment juste devant Dieu? Il dit ici, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Il faut capter la signification de ce que Paul dit ici. Celui qui est juste devant Dieu ou justifié n'est pas celui qui entend la parole ou qui connaît la loi de Dieu ou qui lit sa Bible à tous les jours, mais c'est celui qui la pratique parfaitement. Pour être considéré juste devant Dieu, il faut pratiquer la parole de Dieu parfaitement. Combien de personnes ici peuvent dire qu'ils pratiquent la parole de Dieu parfaitement? Tout ce qui est écrit et prescrit dans ce livre, parfaitement. J'oserais dire que le pourcentage de personnes qui écoutent et pratiquent la parole de Dieu parfaitement est d'à peu près 0%. Vous êtes d'accord avec moi? Prends parfaitement la parole de Dieu. Non, c'est difficile. C'est pour cela que je réponds aux gens qui me disent qu'ils sont troublés par les passages qu'ils ne comprennent pas dans la Bible. N'inquiétez-vous pas pour les versets que vous ne comprenez pas, mais inquiétez-vous pour les versets que vous comprenez et ne faites pas. Commence avec ça. J'imagine que si vous êtes comme moi, ça vous garde occupé pour un bon temps. Parce qu'il y a bien des passages dans la parole de Dieu qu'on connaît, on comprend, c'est simple, mais on ne le pratique pas. Mais comment qu'on peut être juste? On n'est pas juste devant Dieu parce qu'on ne pratique pas parfaitement la loi de Dieu. Et la seule façon qu'on peut être justifié, c'est de pratiquer parfaitement la parole de Dieu. Mais c'est ça le merveille de la justification par la foi, parce qu'elle nous rend comme si nous n'avons jamais péché, comme si nous avons toujours obéi à la loi parfaitement. Wow! D'être justifié. Et comme si après une enquête intense de notre vie, rien n'est trouvé pour nous rendre coupables. Nous n'avons aucune raison pour être accusés. C'est comme si le juge déclare « Cette personne est parfaitement juste », comme décrit par le psalmiste, le psaume 7. « Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. » Imaginez, voici l'état justifié. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle, appelle des saints, ceux qui ont sont loin d'être parfaits, par le miracle de la justification, où nous sommes vêtus de la justice de Dieu, une justice parfaite par le sang de Jésus. Comment une bonne main d'applaudissement pour ce que Jésus nous donne. On ne peut pas le gagner, on ne peut pas l'acheter, c'est donné. Pour citer N.T. Wright, un écrivain théologien du Nouveau Testament renommé, il dit ceci, la citation est sur l'écran, « La justification fait référence à l'imputation de la justice, la parfaite obéissance de Jésus-Christ aux pécheurs. » Le revêtant de cette condition dès le premier instant de foi et jusqu'à l'arrivée au ciel. La justification par la foi est la doctrine sur laquelle repose l'Église repose entièrement. Comme l'expriment les mots de l'ancien hymne, « Je viens avec les mains vides, je m'accroche simplement à ta croix. » Et ça, c'est un hymne en anglais que je connais qui dit « Nothing in my hand I bring, I simply to thy cross I cling. » Et la phrase « Je viens avec les mains vides » est plus importante que nous pensons, car c'est l'essence de la foi chrétienne, biblique, évangélique. Je m'approche de Dieu sans rien dans mes mains, car je n'ai rien que je peux lui offrir. Je ne peux pas l'impressionner avec le nom de ma famille, avec mon argent, avec mon poste, avec mon titre, avec mes études ou ma connaissance. Je n'ai rien à lui offrir pour gagner sa faveur et son amour. Aucun sacrifice suffit, aucune bonne œuvre, aucune mortification ou privation, aucune moralité, aucune action pieuse de ma part. Je m'approche sans aucun acte religieux pour tenter de gagner sa faveur et de montrer que je suis un bon petit garçon ou une bonne fille. Je me tiens uniquement devant lui comme pécheur, indigne et incapable, avec les mains vides pour recevoir par la foi le salut offert entièrement gratuit, car le prix a été payé. Je ne peux rien ajouter de plus par Jésus et seulement par Jésus. Come on, une bonne main d'applaudissement pour Christ. Je viens mains vides, Seigneur, puis je reçois ton salut. Je ne peux rien ajouter à ça. C'est tellement parfait le salut de Christ. C'est pour ça qu'il a dit, je vous écris ces choses, pour vous dire que Jésus est le Fils de Dieu. Puis si vous croyez, vous avez la vie en son nom, la simplicité de l'Évangile. Imaginez que vous pratiquez la loi de Dieu parfaitement, sans aucune erreur, sans aucune faille ou défaillance. Vous approcherez de Dieu avec confiance et l'assurance. Vous approcherez Dieu, non pas avec la honte, ni avec la crainte, avec la tête basse, mais parce que vous êtes libre de toute condamnation. C'est ce que Paul dit en Romains 8 encore. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va les condamner? Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quand ça dit Jésus intercède pour nous au ciel, ça ne veut pas dire que Jésus prie pour nous. L'intercession, je prie pour Marc Lecomte et lui est un bon gars. Non, c'est pas ça. L'intercession de Jésus au ciel, ce n'est pas l'acte de prière. L'intercession de Jésus au ciel est un acte légal. C'est sa présence même au ciel qui est notre intercession, parce qu'il y a encore les marques sur ses mains et ses pieds et son côté qui a la preuve que le prix a été payé. Tout est accompli. Je suis libre de la condamnation. Qui peut accuser celui que Dieu a justifié par le sacrifice de son Fils? Alors je entre et je dis, merci Seigneur, je suis dans ta présence et merci que tu me vois comme parfait et tu me vois comme justifié, non pas par mes propres actes, mais par ma foi en Jésus-Christ qui intercède pour moi parce qu'il a payé le prix. Combien sont heureux pour cette bonne nouvelle? Alors, la foi en Christ nous libère du perfectionnisme, la perfection imposée sur nous par nous. Il nous libère du légalisme, la perfection imposée sur nous par les autres, et il nous libère aussi de la condamnation, la perfection imposée sur nous par Satan. Et voici la vraie liberté, la liberté qui nous donne courage, la La liberté d'entrer dans la présence de Dieu et s'approcher de lui avec audace. Merci Dieu que malgré que je ne suis pas juste, tu me reçois, me vois et me traite comme juste. Je suis maintenant libre de toute introspection, condamnation, obsession avec mon statut devant Dieu et tous ces éléments et émotions paralysants et décourageants afin de focaliser mes efforts sur deux choses. Aimer Jésus et aimer les autres. Aimer Jésus et aimer les autres parce que je suis libre par le nom et le sang de Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas facile à croire ou à accepter parce que ça a l'air trop facile. Trop gratuit. Nous sommes tellement conscients de nos faiblesses et nos manquements. Comment qu'on est indigne d'une telle grâce? Il faut absolument faire quelque chose, il faut gagner. Combien de fois on ressent comme Job? Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent vraiment? Il me déclarera coupable. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Nous avons tous vécu des moments qu'on ressentait comme Job. Épuisé, découragé. Par nos manquements, par le combat, par la condamnation, par les mensonges de l'ennemi. On a tous vécu des moments où on est fatigué, épuisé, parce qu'on ne sent jamais la hauteur malgré tous nos efforts. Luther aussi, Martin Luther, justement, il a combattu avec ces luttes-là, d'essayer de gagner la faveur de Dieu. Les citations d'un de ses écrits dit ceci, il est sur l'écran. « J'étais un moine pieux. Je peux l'affirmer. J'ai observé la règle si servement que je peux dire. » Si jamais moi est parvenu au ciel par la moinerie, je serais bien arrivé aussi. Tous mes compagnons de cloître qui m'ont connu peuvent l'attester. Si cela avait duré plus longtemps, je me serais tué à force de veille, de prière, de lecture et d'autres travaux. Car je croyais qu'il me fallait faire des bonnes œuvres jusqu'à ce que le Christ me fût par elle rendu favorable. Au couvent, je ne songeais ni à l'argent, ni au bien de ce monde, ni aux femmes, mais mon cœur tremblait et s'agitait en songeant comment il pourrait se rendre Dieu favorable. J'étais entièrement donné aux jeûnes, aux veilles, aux prières, à réciter les messes. En même temps, sous cette sainteté et cette confiance propre, je nourrissais continuellement en moi défiance, doute et crainte. Et on connaît ça, c'est un peu comme Job. La sainteté sans aucune paix, sans aucune assurance, jusqu'au moment qu'il arrive à comprendre la justification par la foi, offerte par la grâce de Dieu et non pas gagnée par notre propre justice. Et là, il écrit plus tard, c'est à la foi et non une autre œuvre que nous devons appeler chrétien, avec la ferme confiance qu'il est agréable à Dieu n'est pas possible, sauf pour un chrétien éclairé et affirmé par la grâce. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour la grâce? La grâce! La grâce qu'il nous libère de ces choses. Merci pour la grâce. Voici l'essence de la justification. Ça, c'est l'essence de la justification. Que peu importe ma réalité, mes sentiments, la condamnation que je me place sur moi ou que d'autres placent sur moi, Dieu me voit comme quelqu'un qui pratique la parole parfaitement parce qu'il ne voit pas moi, mais Jésus. Il ne voit pas ma justice, mais la justice de Christ. Il ne voit pas mon compte qui est souvent vide, mais le compte de son Fils qui est toujours rempli. Alors, devant nos péchés, notre indignité, nos accusateurs, il nous reste une chose à faire. C'est de plaider coupable, mais avec une défense, la personne de Jésus-Christ qui nous sauve de nos péchés. Même devant les accusations de Satan qui est appelé l'accusateur en chef. Il nous reste rien qu'une chose à faire quand il vient avec toutes ces accusations. « Ouais, mais t'es comme ça, puis hier, puis hier soir, puis la semaine passée, puis ton enfance, puis ta jeunesse, puis ton passé, puis tout ça. » Puis nous accuse de ne pas être spirituel et à la hauteur. Et c'est impossible que Dieu t'aime. Quand il arrive avec toutes ces accusations, il nous reste une chose à faire. Il faut pas débattre avec lui ou argumenter avec lui ou essayer de prouver ton innocence à l'ennemi. Il faut juste mettre d'accord avec lui. D'accord, oui, c'est vrai, je suis comme ça, j'ai fait ça, tu as raison, mais Jésus m'a rendu juste, il est ma justice, il est ma perfection. Je vais tenter de faire mieux la prochaine fois, mais je refuse d'arrêter ou de me noyer dans le bout de l'apitoiement, du découragement et la condamnation. Je suis libre par le nom et le sang de Jésus-Christ. Martin Luther élabore cette pensée dans un de ses écrits d'une façon un peu vulgaire. En disant, quand l'ennemi vient t'accuser de tes fautes, tes manquements et tes péchés de hier, réponds, oui, c'est vrai, j'ai aussi pété hier, tu veux-tu me condamner pour ça aussi? Ça, c'est pas moi, c'est Martin Luther qui dit ça. Ça, c'est la théologie profonde. Mais je comprends ce qu'il veut dire, dans le sens que, tu sais, l'ennemi arrive avec ça, t'as fait ça. Qu'est-ce que Jean dit? Justement, l'écrivain de l'Évangile de Jean, dans une de ses épîtres à l'Église, tu peux plus loin, en 1 Jean 2:1, qu'est-ce qu'il dit? Mes enfants, je vous écris ces choses. Tu sais, à chaque fois que Jean écrit, bien, il donne la raison pourquoi il écrit. Hein? Comme qu'il a fait dans l'Évangile de Jean. Je vous écris ces choses pour ça. Bon, en 1 Jean, il dit, « Mais je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Ah, OK. Ça, ce n'est pas un feu vert pour pécher, d'abord, la grâce. Pas dire, « Ah, mais parfait, là, je suis libre. Hein, on fait une bonne équipe. Moi, j'aime pécher. Dieu aime pardonner. Alors, on travaille ensemble. » Non, c'est pas ça. Non, l'idéal, c'est ça. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est l'idéal. C'est ce que nous désirons tous, j'espère. Nous ne voulons pas attrister Dieu. On ne veut pas pécher. Mais Jean, un pasteur très réaliste, il dit, mais si quelqu'un a péché, hein? On désire ne pas pécher, on ne veut pas pécher, on espère ne pas pécher, mais si quelqu'un a péché, il est très réaliste, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Ah, parfait. Alors, la prochaine fois que le diable arrive avec ses accusations, dis-lui tout simplement, parle à mon avocat, son nom est Jésus. Speak to my lawyer. N'est-ce pas ça qu'il dit? On ne veut pas pécher, mais si nous avons péché, nous avons un avocat, Jésus. Nous sommes très conscients qu'on ne mérite aucunement le statut de parfait. On l'accepte comme un don gratuit de Dieu, avec un cœur rempli d'actions grâces pour ce que Jésus a obtenu pour nous. Ça, c'est certain qu'on ne veut pas « Ah, pasteur Marc a prêché libre, fut vert pour pécher parce qu'on ne peut rien faire pour plaire à Dieu. » Non, 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 vous n'avez rien compris si vous dites ça. Non, 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 au contraire. C'est tout vrai, mais c'est notre cœur rempli de reconnaissance qui dit « Bien, Dieu a fait tout ça pour moi, Dieu me reçoit comme ça, Dieu a payé le prix pour moi, Dieu m'aime de cette façon-là, Dieu ne me condamne pas, mais je veux tout faire pour lui plaire. » Comme a dit Blaise Pascal, il y a deux types de personnes dans le monde. Les justes qui savent qu'ils sont pécheurs et les pécheurs qui pensent qu'ils sont justes parce qu'ils vivent une bonne vie. Ils vivent une bonne vie morale pensant que ça suffit pour entrer au ciel ou pour gagner leur salut. Il y a des personnes qui sont des pécheurs, mais ils pensent qu'ils sont justes parce qu'ils sont justifiés par des bonnes œuvres. Mais il y a d'autres qui savent qu'ils sont pécheurs, mais ils sont justifiés. Ils sont justifiés par la foi simple en Jésus-Christ. Comprenez quelque chose ce matin. Moi, je ne vais pas au ciel. Marc Lecomte ne va pas au ciel parce que je suis un prédicateur ou un pasteur ou un professeur en théologie. Non, moi, je vais au ciel parce que je suis un pécheur. Pardonné par Dieu et sauvé par le sang de Jésus-Christ, car j'ai choisi de mettre ma foi en Jésus-Christ entièrement et complètement. Parce que d'être presque sauvé et d'être complètement perdu. On ne peut pas être presque sauvé. Nous sommes avec Jésus ou nous ne sommes pas. Il est le seul moyen et le seul chemin. Puis si on essaie de gagner le ciel juste par des bonnes œuvres, sans Jésus-Christ, ça ne fonctionne pas. On est sauvé parce qu'on croit, on admet, on avoue, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, son nom est Jésus-Christ, et je mets ma foi entièrement et complètement en lui. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est justification par la foi. Je termine à quelques instants. Par la foi. Pas juste par la croyance, non, non, par la foi. Parce que la foi, dans la terminologie grecque, quand on fait un examen, une étude du mot « la foi », c'est beaucoup plus que la croyance, non. C'est la croyance, la confiance et la constance. C'est croire, mais c'est après avoir confiance dans ce que Jésus a fait et c'est de continuer avec lui. N.T. Wright encore, il a dit, « Il s'agit de la justification par la foi, non par la croyance. » Et quiconque décrit pistis, le mot pour la, grec pour la foi, comme la croyance, ferait mieux d'avoir un bon avocat. Parce que croyance, c'est confiance, mais aussi constance. On continue avec Christ, on persévère. Hébreux chapitre 10, ça dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. » Jésus revient, il ne tardera pas. « Et mon juste vit par la foi. » Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Mais s'il se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous remarquez, la foi et la persévérance, ça va ensemble. On ne se retire pas, on n'abandonne pas, on ne tourne pas en arrière. On met notre foi en Christ, on commence sur le chemin avec Jésus et on ne retourne jamais en arrière. Et cette constance avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la garantie de notre salut. Quand on réalise ce que Dieu a fait pour nous, le don de grâce qu'il nous a donné sans mérite. La dernière chose que nous voulons faire, c'est de le blesser, le peiner, l'offenser, l'attrister pour nos actions. Je ne veux pas dire qu'on ne le fera pas de temps en temps, mais ce n'est vraiment pas notre intention. Justification, c'est un don que Dieu nous offre. La sanctification, c'est un don qu'on offre à Dieu en retour. Comme une action de grâce. Pour démontrer notre attachement à Jésus, puis notre reconnaissance pour ce qu'il a fait. J'invite les musiciens à s'approcher. termine avec une citation du grand théologien apologétique, écrivain renommé, un apologiste, le renommé Dr. Ravi Zacharias, formidable dans son ministère de défendre la foi chrétienne. Puis il dit ceci dans un de ses livres, la citation est sur l'écran. « Le Jésus que je connais et que j'aime aujourd'hui, je l'ai rencontré à l'âge de 17. Je suis venu à lui parce que je ne savais pas vers qui me tourner. Je suis resté avec lui parce qu'il n'y a nul autre vers qui je souhaite me tourner. Je suis venu à lui en quête de quelque chose que je n'avais pas. Je reste avec lui parce que j'ai quelque chose qui ne s'achète pas. Je suis venu à lui comme un étranger, je reste avec lui dans la plus intime des amitiés. Je suis venu à lui incertain quant à l'avenir. Je reste avec lui certain de ma destinée. Je suis venu au milieu des cris d'assourdissement d'une culture qui a 330 millions de divinités. Je reste avec lui sachant que la vérité n'inclut pas tout. Par définition, la vérité est exclusive. On l'entend mille et une fois lorsqu'on grandit dans l'Est. Nous empruntons tous différentes voies et nous nous retrouvons au même endroit. Mais je vous le dis, Dieu n'est pas un lieu, ni une expérience, ni un sentiment. Il est une personne, Jésus-Christ. Au fil des ans, je suis plus convaincu que jamais qu'il est exactement qui prétend d'être. Dieu incarné qui est venu nous donner la vie en abondance et nous guider vers la beauté, la liberté de la vérité. Et ce fut le cri des réformateurs sur la Scriptura et liberté, simplicité, justification par la foi. Et tout ça est possible parce que Jésus a payé le prix. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à un Dieu qui a payé le prix? On a chanté le chant « Combien Dieu est grand ». Et quand on voit la splendeur de tout ce qu'il a fait, et quand on voit sa parole et la richesse de la parole, et quand on voit tout ce qu'il a préparé pour nous, et la grandeur de son salut, miséricorde et grâce envers nous, et comment c'est spectaculaire le prix qui a été payé, le corps et le sang de Jésus. C'est vrai qu'on est émerveillé par la grandeur de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit en Romains 1, 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut qui veut dire quoi? Je suis fier de l'Évangile. Je suis fier de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis fier de Jésus mort et ressuscité, fier et émerveillé. Je pense souvent aux anges sur l'Arche de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait l'Arche de l'Alliance qui représentait la présence actuelle de Dieu, les anges ont toujours été penchés vers le milieu. Ils gardaient vers le centre, qu'est-ce qu'on appelle le propitiatoire, the mercy seat, le lieu de la miséricorde, le centre de l'arche où il y avait l'aspersion du sang qui était mis là, puis les anges regardent vers le sang parce qu'ils fixent le regard avec envie, avec merveille, étonnement sur le sang. Qui sont ces humains pour que Dieu verse son sang pour eux? Et qui est ce Dieu qui verse son sang pour les êtres humains? La bonté inexprimable de Dieu et la valeur inestimable de l'homme par la croix de sang de Jésus qui était versée pour nous. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On commande tout le monde debout, d'en arrière, ici en avant. Donnons une ovation, une acclamation, un applaudissement au Seigneur pour la grandeur de son salut. Pour son sang, pour sa bonté. Il est merveilleux, il est bon, il est grand. Il m'aime, il m'a choisi, il m'a adopté. Il est présent. On n'a pas besoin de récitations, on n'a pas besoin de récits, on n'a pas besoin de cérémonies. Dieu est présent ici. Levons nos mains, nos voix tous ensemble et chantons la grandeur de Dieu et reçois ce que vous avez besoin ce matin. Pardon, liberté, salut, délivrance. Le Seigneur est grand et présent. Chantez-le.